Salut et bienvenue sur le podcast de Mums Collective où nous célébrons la beauté de la maternité et rendons à la physiologie et à l'intuition maternelle leurs lettres de noblesse. Je m'appelle Johanna Arvnus, j'espère participer au changement de paradigme autour de la naissance et de la maternité. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous partager le témoignage de Molly qui nous raconte son parcours à travers ses 3 enfantements jusqu'au dernier où elle a choisi d'enfanter librement avec son mari. Un échange plein de joie dans lequel nous nous émerveillons de la beauté de la maternité. Bonne écoute! Salut Molly, merci beaucoup d'être sur le podcast pour venir témoigner de ton expérience de mère, de femme qui enfante. Est-ce que tu peux nous te présenter rapidement, nous dire qui tu es, même si ce n'est pas une question à laquelle on répond en 2 mots. Mais...
Ben, bonjour Johanna, merci de m'avoir invitée. Donc, je m'appelle Molly, j'ai 27 ans, je vis dans le sud de la France, je suis mariée, j'ai 3 filles. Et pour l'instant, je suis mère au foyer. J'étais travailleuse sociale spécialisée dans l'intervention à domicile et la protection de l'enfance. Et je me reconvertis en tant qu'accompagnante périnatale.
Magnifique. Et alors, tu es là pour nous partager ton cheminement avec tes 3 enfantements. Ta première est née en maternité.
Et c'est ça, bientôt 8 ans.
Ouais. Et suite à cette expérience, tu as su que tu voulais enfanter à la maison. Et tu as eu 2 expériences, une avec une sage-femme. Et la dernière, seule, en autonomie avec ton mari.
Alors, exactement.
Est-ce que tu veux nous partager ce cheminement, ce qui t'a conduite à ces choix et ce que ça veut dire pour toi, comment tu l'as vécu?
Initialement, j'ai toujours voulu accoucher à la maison parce que je n'ai jamais vu la grossesse comme une maladie. J'ai toujours trouvé ça bizarre que... On aille dans un hôpital pour accoucher, en fait. C'est là où on va quand on n'est pas bien, quand on est malade, quand on a un problème. Et petite, ma mère a eu des enfants alors que j'avais 10 ans. Et du coup, j'ai pu assister à ses grossesses. Et une de mes sœurs a failli naître à la maison. Mais ma mère est partie au bon moment, en fait. Elle a accouché tellement vite. Elle a accouché, je crois, en 1 heure. Et en fait, j'étais très déçue de voir que ma sœur allait naître et que c'était des inconnus au dernier moment qui allaient la voir avant moi. Et ça m'a toujours marquée. Donc, j'ai toujours voulu accoucher à la maison, même pour ma première. Sauf que je suis tombée enceinte à 19 ans. C'était un bébé surprise. Je me suis retrouvée maman solo. Et personne ne vous dit vraiment comment faire pour accoucher à la maison. C'est assez... c'est pas du tout conventionnel. Puis, c'est assez tabou. Donc, j'ai accouché en maternité. Et ça s'est tellement mal passé que j'ai dit plus jamais, mais vraiment plus jamais. C'est-à-dire que dans ma tête, c'était acté, et les prochains enfants que j'aurai, ce serait forcément dans ma salle de bain, envers et contre tout, quoi.
Ouais.
Et j'ai rencontré mon mari, on a eu des enfants, et je lui ai dit, je n'ai pas changé d'avis, ce sera toujours chez moi. Et il a dit, d'accord, on prend une sage-femme. Et puis, donc ma seconde est née à la maison. Et la sage-femme n'a pas eu le temps d'arriver, comme je le souhaitais ardemment au fond de moi. Et puis, pour la troisième, eh ben, écoute, on s'est dit, c'est tellement bien qu'on va recommencer.
Et tu m'avais raconté, là, quand on a discuté un petit peu avant, que tu avais dit à ta sage-femme que quand elle te demandait comment tu visualisais l'enfantement, tu l'imaginais sans elle.
Exactement, je disais toujours, tu n'auras pas le temps d'arriver. Et elle voulait des précisions, mais ce sera le jour, ce sera la nuit. Bah, je ne sais pas, entre les deux. Et finalement, c'était au petit matin, elle n'a pas eu le temps d'arriver. Je trouve ça marrant. Ben ouais.
Et donc, pour la dernière, vous êtes...
Pour la dernière, en fait, la grossesse, on est venu un petit peu m'embêter, me chercher des poils sur les œufs parce que les échographies montraient des mesures qui ne rentraient pas dans les normes, mais qui ne rentraient pas non plus dans la case... pathologique. Donc, on m'a un petit peu harcelée. On n'acceptait pas que j'annule des rendez-vous pour des examens qui m'étaient imposés, que je n'avais pas envie de faire parce que j'étais en paix, que je savais que mon bébé allait bien et que pour moi, ces mesures, elles ne représentaient rien.
Surtout qu'on sait que ces mesures sont très, très, très souvent erronées et très loin de la réalité, et
Exactement.
qu'elles sont utilisées pour faire peur aux femmes et pour les, voilà, pour pathologiser des grossesses, surtout quand le médecin ou sait que la maman enfante à la maison. C'est pas, malheureusement, il y a trop de témoignages concordants qui montrent ça.
Mais exactement. Et moi, j'avais pas envie de me laisser voler ma paix. Leurs angoisses, c'était pas les miennes. Donc, je les ai laissées là où elles étaient, en fait, chez eux. Et puis, plus on m'a cassé, plus en fait on m'a pesé, et plus je me suis affranchie de ces poids, et j'ai décidé d'accoucher seule à la maison, quoi. Parce que finalement, la paix, c'est ce qu'il y a de plus précieux.
C'est clair. Surtout ouais, la confiance et l'apaisement pour enfanter, c'est une des clés de la sécurité.
Exactement.
Et alors, est-ce que tu veux nous partager ce chemin de grossesse où tu t'es libérée parce que ça demande quand même un sacré courage, une sacrée confiance en soi et une affirmation de s'affranchir de tout ça.
Disons que c'est, je pense, c'est juste une question de savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on a envie de se laisser embêter? Est-ce qu'on a envie de se faire du souci? Je pense que l'inquiétude, ça vole la joie, ça vole le moment où on peut profiter de la grossesse pleinement, dans toute sa plénitude, dans toute sa joie. Et que j'avais pas envie de me faire dérober ça, c'est tout. Tout simplement, je me suis dit, mais moi, je porte mon bébé, je sais qu'il va bien. C'est tout. Pour moi, c'était juste que j'avais pas envie de me laisser embêter. Et je sais très trop bien ce que c'est que d'être embêtée. Donc, j'avais pas envie de faire ça. Je pense que la grossesse est beaucoup trop éphémère. Ça dure 9 mois, mais ça passe assez rapidement. Surtout quand on aime être enceinte, ce qui est mon cas. Et j'avais pas envie d'avoir ce souvenir un petit peu amer une fois que j'aurai accouché, quoi.
Alors, raconte-nous comment s'est passé cet enfantement. Comment vous avez vécu ça en famille?
C'était un jour qu'on attendait avec impatience. Plus le terme approchait, plus nous étions dans l'effervescence avec beaucoup d'excitation. Les filles, elles étaient préparées, mais enfin, ma grande avait déjà assisté à la naissance de ma deuxième à la maison, donc elle savait très bien ce que c'était. Et puis elle se languissait de revivre un moment pareil parce que c'est vrai que ça a une magie toute particulière. Et puis mon mari aussi, en fait, c'est un homme assez ouvert sur la physiologie, je pense, déjà de par son métier, puisqu'il est éducateur sportif. Et il me disait toujours, c'est toi qui portes mes enfants, c'est toi qui les mets au monde, donc je me plie à tes choix, en fait. Toi qui décides. Moi, je suis le gardien de tes choix. Et cette confiance, déjà, c'est une perle rare, quoi.
Ouais, c'est magnifique. C'est
C'est un
d'ailleurs
cadeau.
que pour moi, c'est comme ça que c'est l'incarnation de ce qu'est le père et ce qu'est l'homme, ce gardien aussi
Exactement.
de la mère, de l'enfant, mais dans cette manière respectueuse et ouais, voilà, profondément respectueuse de ce mystère.
Puis il avait déjà vu, en fait, comme j'ai déjà accouché à la maison, même si la sage-femme elle a pas eu le temps d'arriver, en fait, c'était Nana inopinée. Et il a vu que. Mais c'est pas que la sage-femme ne nous a pas manqué, attention. C'est juste que ben, on a vu qu'on pouvait faire les choses nous-mêmes et qu'il n'y avait pas besoin de faire, finalement. Il y avait juste besoin de laisser faire. Tu profites, puis c'est tout. Donc, dans toute cette simplicité, il a vécu comme quelque chose de puissant, où il avait totalement sa place. Et je vais vous dire. Je ne sais pas s'il va accepter que je dise ça, mais peut-être qu'il ne m'entendra pas. Il en a pleuré pendant plusieurs jours, à me remercier, à me dire mais merci parce que j'ai vécu quelque chose que peu peuvent se gargariser de vivre. Et enfin, rares sont les hommes qui ont vécu un accouchement qui était, en fait, qui ont la sensation d'avoir accouché parce qu'on était une équipe, parce qu'il avait une place, parce qu'on ne lui a rien volé, parce que ça, c'était un deal entre nous, mais c'était. Je voulais que lui, ça soit le premier à poser les mains sur le bébé. Donc il le prend, il le donne. Et en fait, c'est sa place, c'est son cadeau, c'est son privilège. Et de voir qu'il en a profité pleinement. En fait, il voulait plus d'enfantement dans un autre cadre, en fait. Pour lui, c'est ça. Ça peut pas être autrement, finalement.
Ouais, c'est magnifique.
Exactement. Et comme il savait, donc comme on l'a déjà vécu une fois, il s'est dit, ben, ça marche, on ne va pas changer l'équipe qui gagne. On va refaire la même, quoi. Tu vois, qui est partant pour un deuxième tour? Mais c'était le premier à lever la main. C'était vraiment, c'était en toute simplicité, et toute confiance, c'était parfait. C'était juste ce qu'il faut.
Ah, c'est beau. Et alors, vos filles étaient présentes?
C'est ça. Elles étaient présentes, elles ont dormi parce que le travail s'est mis en route la nuit. Et puis elles se sont réveillées spontanément le matin avant que bah, avant l'expulsion du bébé. Je ne sais plus vers quelle heure parce que moi j'étais complètement dans mon monde. Et une de mes sœurs était là. Était ce que j'appelle mon filet de sécurité et en même temps la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que si jamais je sentais que quelque chose n'allait pas et qu'il fallait que j'aille à l'hôpital, elle aurait été présente pour mes filles. Et comme il y avait peu de risques qu'il y ait quoi que ce soit, en fait, je lui ai dit, tu vas surtout vivre un des grands moments de ta vie. Sans présomption, mais c'est vrai.
Ici,
Et du coup, elle a géré le petit déjeuner des filles pendant que j'étais dans ma bulle avec mon mari. Et puis, elles étaient là quand leur sœur est arrivée, vraiment en un clin d'œil, c'est le cas de le dire. C'était tout simple, en fait. C'était pas banal. Puisque c'est pas rien, mais en fait c'était comme si ça faisait partie de la vie de famille, du
c'est
quotidien.
ça. C'est un moment magique, extraordinaire et extraordinaire, mais qui en même temps est ordinaire parce qu'il est fait partie de la vie des femmes et des familles depuis toujours.
Exactement. Et en fait c'est juste, oui, ben, maman est en train de faire un bébé. Et alors? On profite. Je trouve ça déconcertant quand on voit en fait la norme imposée des naissances, vous voyez. Et je me dis d'observer mes filles, parce que je les ai observées, parce qu'on a un reportage photo des naissances en fait, et de la naissance. Et du coup, j'ai pu voir les photos, leurs réactions, leurs regards. Et je me dis oui, en fait, ça s'implique tout, ça s'imbrique complètement dans le quotidien, dans tout ce qui ça a de les femmes enfantent depuis que l'humanité existe et dans tout ce que ça a d'extraordinaire, genre, ah, ça y est, le bébé, il est là, vite, on va le découvrir, on va lui amener un jouet, on va créer un lien. Et je trouve que c'est magique.
Et
C'est
quelle
magique.
magie aussi de pouvoir transmettre ça à nos filles, de pouvoir transmettre cette culture que l'enfantement fait partie justement de la vie de famille et de la normalité, et aussi de l'entourer de sacré, dans le sens, il y a cette intimité de la famille, du cocon familial qui vient apporter toute une ambiance, au-delà de l'ambiance, même tout un sens à cette naissance, au naissance, voilà, et de pouvoir transmettre ça à nos enfants. C'est magnifique, c'est vraiment cette perpétuation dans la lignée des femmes de ce savoir de donner naissance qui est à la fois inné et dont la culture se transmet comme l'allaitement. Et je me dis, waouh, quel privilège pour tes filles d'avoir vu ça, d'avoir connu ça.
Exactement, je crois que la grande maintenant, quand la deuxième sœur est née, elle avait 7 ans, donc je crois qu'elle s'en rend compte en fait. Parce que à l'école, quand elle y était encore, on lui disait, oh, mais elle était super fière de dire que sa sœur allait naître à la maison. Et tout le monde disait, oh, mais c'est dangereux, hein. Et une fois, j'ai entendu qu'elle a répondu, t'aimerais naître chez le dentiste, toi? T'es pas mieux chez toi? Et en fait, j'ai trouvé ça d'une simplicité.
Ah ouais, la sagesse des enfants.
Ça m'a fait rire. Et c'est vrai qu'il ne s'attendait pas à cette réponse, le jeune garçon, parce qu'il est resté tout penaud. Et moi, j'ai rigolé dans mon coin.
Ouais, c'est beau, elle a tout compris. Et alors, tu disais que ce bébé, il est arrivé en un clin d'œil?
Exactement. C'est-à-dire que bah, le travail était relativement anarchique. Un coup, ça allait très vite. Un coup, ça ralentissait beaucoup. Et puis, il y a eu une phase de latence et de repos pendant laquelle j'ai complètement dormi de 1 heure. Et après, je me suis levée. Et après, j'ai eu une contraction qui m'a complètement réveillée, clouée au sol. Et ma fille est descendue tellement rapidement, c'est-à-dire qu'elle était vraiment en haut de mon ventre et elle était à mes genoux dans la seconde qui a suivi, quoi.
Ah oui, tu l'as senti vraiment expulsé, ce réflexe.
Il n'y a pas eu de poussée, il s'est vraiment passé quelques secondes. Elle est sortie d'un coup en entier et pas du tout par étape, hein. Je veux dire, pas un coup la tête, après les épaules, c'était un toboggan.
Oui, moi aussi j'ai eu cette expérience comme un boulet de canon.
Exactement, c'est très surprenant.
Et donc, raconte-nous l'accueil de ton bébé. Donc, c'est ton mari qui l'a accueilli.
En fait, il a mis un plaid là où j'étais, juste en dessous.
Oui.
Elle est tombée sur le plaid. Elle est tombée, façon de parler, j'étais accroupie. Si la chute était de 10 cm, c'était
Oui,
bien grand.
elle a atterri sur le plaid.
Exactement. Et mon mari l'a pris et je l'ai pris parce que j'étais complètement. Là, j'étais shootée. Le shoot d'ocytocine. Là, j'étais déjà dans un autre monde, la délivrance, mais le. Ah, c'est fini, fou. Et je l'ai posé contre moi. C'était assez rapide, assez intense. Sur le coup, j'ai quand même trouvé ça violent.
Oui,
Donc,
t'as
elle
pas eu. Non.
a pour voilà, décharger un peu ses émotions. Et je l'ai posé contre moi. Je l'ai mis dans un plaid. Je me suis amitouflée dans un plaid avec elle. Et en fait, on a attendu, juste, on a profité, on a découvert son visage. On a découvert que c'était une fille tous ensemble parce que nous avions gardé son genre secret. Et puis, c'était une belle surprise, en fait, tout simplement. Je ne sais pas combien de temps il s'est passé, peut-être un peu plus d'une heure. Je me suis relevée, le placenta est descendu, donc on l'a mis dans un saladier.
Il a ton placenta, il est sorti tout seul en fait. Tu t'as pas enfin.
Exactement.
Et pendant et
Exactement.
ça je le note, je le souligne parce qu'en fait c'est dans notre culture et donc on l'a profondément intégré. Cette expulsion du placenta, elle fait partie des choses qui font le plus peur souvent à cause de l'hémorragie possible et tout ça. Et en fait, ce que tu viens de décrire, c'est tellement les conditions idéales de la délivrance, c'est-à-dire le pot à pot, cette baigné dans l'ocytocine, la chaleur d'un plaid et dans l'obscurité, si on peut. C'est ça les conditions idéales pour que le placenta vienne et non pas de se concentrer dessus ou d'avoir peur surtout qu'il ne vienne pas. Parce que ça, c'est le. Voilà.
Exactement. Et en
Et
fait,
donc
c'est
là, ce que
dingue
tu
parce que
décris, ça permet.
quand on n'y pense pas, c'est lui qui nous rappelle qu'il est là, quoi.
Oui, c'est ça, mais ce que tu décris, en fait, c'est vraiment ce qui. J'ai envie de dire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire plonger dans cette rencontre avec son bébé dans cette bulle. Et toutes les hormones font elles font le reste si on est. Mais la moindre trace d'inquiétude sur ce sujet vient perturber en fait ce processus tellement bien ficelé par la physiologie.
Non, mais c'est vrai, la nature a tout prévu et en fait, faut juste en faire son allié.
C'est ça, et c'est nos peurs qui souvent la perturbent. Et donc c'est très beau ce que tu viens de décrire, parce qu'en fait ça montre à quel point ça peut être simple si on ne vient pas interférer avec de la peur.
Exactement. J'ai pris le temps en fait de rencontrer mon bébé, de le mettre au chevet, de la garder au chaud, de la découvrir, de la sentir, de me demander, voilà, bébé, tu viens de naître, c'est difficile, remets-toi, t'es contre moi, si tu veux téter, ben écoute, je te mets un peu plus près de mon sein, c'est toi qui décides. J'étais vraiment dans cette démarche et de savourer ces premières secondes qu'on languit, en fait, comme toute maman, découvrir son bébé. Et puis, je sais plus, je crois que je me suis allongée, et puis, je me rappelle même pas, je me rappelle juste que j'ai fixé les yeux sur mon bébé et qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça y est, je l'ai fait, quoi. Je l'ai fait, j'en ai pleuré, je me suis dit, mais je l'ai fait. Et tu as l'impression d'avoir gravi l'Everest. Et en même temps que c'est si évident.
C'est ça. Et c'est ça, c'est quelle expérience de force et de qui vient pour moi imprimer toute la vie d'une femme ensuite. Être mère, ça demande un tel dépassement de soi en permanence. La naissance, c'est que le co enfin, c'est le tout au début d'un long chemin. Et de pouvoir
Exactement.
expérimenter cette force, tu vois, c'est. cette puissance qui nous
c'est
habite.
Quelque chose que j'avais pas du tout expérimenté durant mon accouchement en maternité où je me suis dit, ouais, j'ai accouché à quoi? Limite, on m'a accouché en fait.
Bah, c'est d'ailleurs souvent ce qu'on entend, hein. On parle des accoucheurs, on parle tel docteur m'a accouché, et on voit bien qu'en fait il y a un déplacement de qui est l'actrice principale, l'acteur principal de la chose. Ça change beaucoup de choses en fait. C'est pas seulement la question, c'est pas seulement les interventions, et c'est profondément qui expérimente cette puissance et qu'est-ce que ça veut dire pour les femmes dans notre société, dans notre culture, dans notre monde d'expérimenter ça, de connaître leur. Parce que c'est au-delà de toutes les revendications, c'est une expérience que tu fais dans ton corps, dans tout ton être, et qui te bouleverse.
Exactement. C'était, oui, j'ai accouché, j'ai eu mon bébé. C'était beau parce que c'était un accouchement, que j'ai rencontré mon bébé. Mais il n'y avait pas du tout. Je ne me suis pas sentie pleinement actrice. Au contraire, je me suis sentie comme si on m'avait volé mon accouchement. Déjà parce qu'on n'a pas respecté mes choix, mais je ne me suis pas sentie grandie. Je ne me suis pas sentie avec transcendée, avec une confiance en moi supplémentaire. Jamais. Alors que la naissance de ma deuxième, c'est un an inopiné, mais je me suis dit, mais il m'a manqué une dimension, en fait. Il m'a manqué une dimension. Là, je me suis sentie complètement différente après. Il y a une confiance qui s'est inscrite en moi que je n'ai jamais eue auparavant. Jamais. Et un fort taux, si je peux dire, de satisfaction, de fierté, de. Que j'ai pas eu pour le premier. En fait, ça reste un accouchement, oui, c'est beau parce que c'est tu rencontres ton bébé, mais en fait, il manque de texture. Bon, il est un peu fade, voire limite insipide. Il a comme un goût de il me manque un truc. Vous voyez?
Et puis c'est même ouais, c'est ça, il y a le goût, ce que tu dis, cette saveur de l'événement. Mais comme tu décris très très bien, c'est tellement profond. Et on pourrait parler du côté de l'enfant aussi, de l'impact sur les enfants d'une naissance comme celle-ci. Mais t'imagines si toutes les mères avaient cette expérience puissante, qui ne veut pas dire que la suite sera facile. Bon, il y a eu plein de témoignages dans le podcast de femmes qui ont vécu un enfantement en puissance et qui après un postpartum très difficile parce qu'elles n'ont pas été entourées. D'ailleurs, tu pourras peut-être nous parler de ton postpartum. Mais ça montre que si on arrête de séparer déjà les différentes étapes, la grossesse, l'enfantement, le postpartum, et qu'on laisse les femmes, que les femmes se réapproprient ce qui est à elles et à leurs enfants et à leur famille, ça transforme profondément la vie de la famille, la vie de la personne, la vie de l'enfant, évidemment. T'imagines la force des mères, la force d'une femme qui sait que quand tu disais que tu as gravi l'Everest, quand tu as l'impression d'avoir fait quelque chose, que tu pourras tout vivre. Et dans la vie de tous les jours, dans toutes les choses à traverser en tant que mère, c'est quand même une expérience qui, même si après, ça ne veut pas dire que la vie elle est toute rose, mais ça vient imprimer profondément notre vision du monde et notre vision de nous. Et c'est extraordinaire. L'impact, il est profond. C'est pas juste une lubie pour vivre quelque chose de cool. Parce que souvent, c'est un peu présenté comme ça, comme si c'était quelque chose d'égoïste. Ça n'a absolument rien à voir. C'est comment on voit l'humanité, comment on veut élever nos enfants, nos filles, nos fils. Enfin, c'est waouh.
Mais exactement. Et ça s'est transcrit vraiment par quelque chose de palpable. Que moi, j'étais pour l'anecdote, j'ai toujours craint mes patrons. C'est débile. Hein. Mais je m'affirmais pas tout le temps. Donc j'avais toujours une certaine aigreur parce que je me sentais pas pleinement libre de dire ce que je voulais, de faire ce que je voulais. Et après, ma première naissance à domicile, je me suis dit, mais attends, c'est bon, tu fais tes enfants chez toi par toi-même, tu vas pas te laisser emmerder. Et à partir de ce moment-là, j'ai tapé du poing sur la table comme jamais de ma vie. Mais en fait, sans orgueil, sans présomption, juste parce que je savais de quoi j'étais capable et que j'avais pas envie de subir des jougs dans lesquels j'acceptais plus de me mettre.
Oui. T'avais envie de t'aligner avec
toi. Dans ma vie, pas que dans ma vie de maman, en fait, même dans ma vie de femme, dans ma vie de citoyenne.
Sûr. Parce qu'en fait, c'est tout un, on ne peut pas séparer nos différents êtres. Quoi. On a tout ça en nous, on est.
Exactement. Et je suis même sidérée que ça puisse choquer des gens. Mais comment t'as fait pour le cordon? Et comment t'as fait? Mais en fait,
Ah oui,
t'as pas.
raconte-nous comment ce que vous avez fait pour le cordon, est-ce que vous avez attendu?
Ben oui, en fait, on a attendu. Une fois que le placenta est sorti, je me suis mise sur le canapé, je me suis installée peut-être un peu plus confortablement, parce que au bout d'une heure, un peu plus d'une heure, j'étais quand même au sol. Certes, il y avait plein de couvertures, c'était cosy. Le canapé, c'est différent. J'ai posé mon bébé sur son plaid. J'ai vu le cordon. J'ai acheté un lien de cordon en crochet.
Oui.
C'est Melune, parce que c'est la seule qui en vend en France.
Mais l'une, c'est une petite boutique. D'ailleurs, je mettrai son lien dans les notes de l'épisode.
Ouais, super. Et j'ai fait un petit nœud, on a fait un petit nœud, on l'a coupé avec un ciseau de cuisine qu'on a désinfecté avant. Et tout simplement. Et on a l'impression qu'il faut un bac plus 5 pour clamper. Bon. Et
Ah,
en
mais
fait,
il y a
il n'y a
tellement de
rien de
croyances.
plus basique.
Il y a tellement de croyances autour de ce cordon, et même encore parfois chez ceux qu'on appelle les professionnels de la santé. Mais comme c'est fou, quoi, que le sang pourrait repartir dans l'autre sens. C'est fou les peurs qu'on a accumulées autour de quelque chose de si simple et de si. Bon. Et
Non,
je
mais c'est
sais
ça.
que certaines
Ou
personnes
même tout
ont
bêtement, mais comment t'as fait pour attraper ton bébé? Ben, en fait, j'ai deux
eu
bras.
Et je sais que
Comment t'as
certaines
pas?
personnes penseront que c'est simpliste de dire ça et que c'est nier plein de choses. Or, pour moi, c'est le contraire. On a créé tellement de risques, tellement de problèmes à venir interférer avec cette simplicité
Non,
de
mais c'est
notre.
ça. Et j'aime bien quand on félicitait mon mari, parce que non, enfin, je trouvais ça cocasse quand on me disait, ah, bravo, t'as assuré. Punaise, heureusement que t'étais là, t'as pu attraper le bébé. Et mon mari, il fait non, mais c'est ma femme qui a mis au monde mes enfants. Et si elle m'a laissé poser mes mains sur notre enfant en premier, c'est parce qu'elle a bien voulu me faire un cadeau. Il fait en vrai, elle n'avait pas besoin de moi. Il
Ah
a dit son corps, il a
c'est
tout
beau,
fait tout
c'est
seul.
beau, il y a
Elle a
vraiment.
des mains, elle n'a pas des mains assez courtes pour attraper son bébé et le mettre contre elle. Il dit faut, il fait une femme, elle a besoin de personne pour accoucher. Et il fait juste, je me suis fait le serviteur de ma femme pour que ce moment, en fait, de tout ce dont elle avait besoin, elle ait aucune carence.
Ouais,
Et les
mais.
gens, ils sont éberlués d'entendre un discours pareil.
Mais t'imagines, quand tu regardes Baby Boom et tous les films dont on nous a abreuvés avec des images tellement à l'opposé de ce qu'est la naissance, on est.
Mais tellement. Même mon mari, c'est le premier à dire, c'est pas du tout comme ça.
Mais en fait, ça paraît même presque absurde. Enfin oui, ça paraît absurde.
Et
Et
quand
c'est.
je vois des extraits de Baby Boom qui tournent sur Internet, moi, j'ai pas la télé, donc je regarde même pas Baby Boom, et que
Bah,
je tombe
en
sur
fait,
des extraits et qu'il y a des violences ou des paroles, ou en fait, tout le monde trouve ça banal, trouve ça normal, mais ça n'a rien de neutre, ça n'a rien de doux, c'est d'une violence. Mais je me dis, mais comment on peut accepter ça? C'est d'une banalité, en fait. Honteuse.
mais c'est ça, c'est la
Honteuse.
banalisation de la violence qui fait qu'on l'a intégrée. Moi, il m'aura fallu deux enfantements pour me rendre compte qu'en fait, c'était juste pas normal, mais. Parce que ça fait partie de notre culture, on est profondément conditionné. Et des récits comme le tien, ils viennent montrer que déjà, voilà, autre chose est possible pour celles qui ont peut-être le savaient pas encore. Parce que moi, je ne savais, à aucun moment, ça m'avait traversé l'esprit que je pouvais simplement prendre ces décisions pour moi et que c'était même possible. Enfin, c'est tellement, ça ne faisait pas partie de mon schéma de pensée. Et donc, déjà, savoir que c'est possible, mais en plus, au-delà de ça, de savoir qu'en fait, c'est ça la norme. Voilà.
Non, mais c'est vrai, c'est tellement simple de laisser faire. C'est juste qu'on est dans une société d'hyper-contrôle. Mais pour
D'hyper
tout,
contrôle et puis
là,
surtout.
hyper-contrôle, préserver le risque le plus possible. Mais en fait, on a tellement peur des risques pour tout que dans notre comportement, c'est comme si on avait peur de la mort, donc on s'empêchait de vivre.
Complètement. Et puis c'est pire que ça parce qu'on crée des risques. Enfin, pour moi, tous ces contrôles sont délétères et vont contre la vie. On pourrait débattre de
Exactement.
ça. C'est le grand. D'ailleurs, toute notre culture, tout ce qui se passe en ce moment dans le monde le montre. C'est fou. C'est fou ce qui est en train de se passer. Et je trouve que la naissance, toute l'histoire de l'obstétrique, de la naissance, comment les naissances se produisent aujourd'hui, c'est comme une loupe sur tout ce qui se passe dans l'humanité, tout notre rapport à la vie, à la mort, à la santé, au corps, au bébé, à l'enfant, enfin, tu vois. Bref.
Mais exactement.
Toute la vie, je trouve que ce sujet, il catalyse toute la vie et on peut comprendre beaucoup de choses du monde dans lequel on est en regardant comment les bébés naissent. D'ailleurs, c'est Michel Audin qui dit ça, si on veut changer le monde, il faut changer la manière dont les bébés naissent, mais parce qu'en fait, ça impacte la vie d'un enfant et la vie d'une femme, enfin, pour toujours, d'une famille, mais aussi parce que ça vient montrer le rapport qu'une société a à la vie, et donc c'est fondamental. C'est un sujet qui, comme dit Michel Audin, c'est pas un sujet que pour les femmes enceintes, c'est un sujet pour tout le monde.
C'est un sujet qui concerne tous les êtres de la société, puisqu'on est tous d'une femme.
Oui.
Je veux dire,
les mères vont bien, le monde.
Que ce soit des futurs hommes ou des futures femmes, en fait, ils sont tous nés d'une femme. Donc, on est tous concernés par l'enfantement, les conditions de naissance, le postpartum, toutes ces choses qui sont d'une intensité et en même temps tellement capitale dans la vie. Si on ne prend pas soin de ces moments, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on peut laisser comme empreinte.
C'est clair.
Et je trouve que c'est même pas un raccourci qu'il a fait Michel Audin. Quand il dit cette phrase, on dirait qu'elle est simpliste, qu'elle est limite un peu trop simple pour avoir du sens. Mais en réalité, elle a une réelle profondeur.
Moi, je connaissais un vieux sage qui disait toujours « Les choses simples sont celles que l'on découvre en dernier, si on les découvre. » Et je pense que c'est exactement ça, en fait.
C'est ça.
On veut toujours des choses, on a besoin de compliquer les choses qui sont simples. Et ça ne veut pas dire qu'on est simpliste en disant cela. Mais bon, ça demande. En tout cas, je trouve magnifique dans ton témoignage. C'est magnifique le témoignage aussi de ton mari et de ce respect pour toi, pour ce mystère de la naissance. Je trouve ça magnifique. Et de sentir à quel point la naissance est un moment de famille précieux, infiniment précieux. Quelle beauté!
C'est beau à raconter, mais ça l'est encore plus de le vivre.
C'est ça. On le souhaite à toutes les familles, à toutes les femmes, à tous les bébés de vivre cette expérience parce que vraiment, c'est...
Voilà. C'est waouh. C'est transcendant. Wow. Ouais.
Un immense merci, Molly. Est-ce que tu veux partager encore quelque chose?
Je ne sais pas. Là, tout de suite, je n'ai pas l'inspiration. Pourtant, il y aurait tant à dire. Mais je dirais que chacune des peurs qu'on peut avoir, elles sont pas forcément... C'est pas grave d'avoir peur, en fait. Je pense qu'il y a des peurs qui sont complètement légitimes, qu'elles méritent qu'on prenne le temps de travailler dessus pour se payer le luxe de pouvoir prendre une décision réellement libre. Je m'explique, aujourd'hui, on passe son temps à faire des choix, souvent parce qu'on a peur de notre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je trouve ça dommage. Je trouve ça réellement dommage de pas prendre le temps de travailler sur ces peurs. Qu'est-ce qu'elles veulent dire ? Qu'est-ce que je peux faire pour m'en affranchir ? Parce que je pense que la liberté, la réelle liberté, elle est juste savoureuse. Et on a pas beaucoup d'enfantements dans une vie. Ils méritent qu'on prenne le temps de les préparer, de les choyer, de les vivre intensément. Parce que c'est très court. C'est très, très court. On souffle la première bougie de son bébé, on a l'impression qu'on a accouché il y a 5 minutes, et en vrai, ça fait déjà un an.
Oui. Ce que tu décris beaucoup pour relater cette expérience, de se demander, waouh, mais comment le temps passe si vite.
C'est vrai, c'est vrai. Et la maternité, je pense que c'est ça. C'est ta vie, elle est complètement bouleversée du jour au lendemain. Il y a des moments où tu te dis, j'aimerais bien une journée que ma vie soit un peu comme avant.
J'aimerais faire une pause et en même temps,
Et je pense que c'est le premier enfant, en fait, on ne se rend pas forcément compte. Je pense que c'est à partir du deuxième. Moi, personnellement, je me suis dit, mais il faut que je profite parce que ça ne va durer qu'un temps. Donc, les mauvais côtés, forcément, il y a toujours des mauvais côtés, des côtés plus difficiles que d'autres, ou surtout, notamment, la fatigue. Mais, en fait, tout ça, ça vole en éclat quand on se dit « profite » parce que ça ne dure qu'un instant. Et le temps que tu te rendes compte que c'est passé, tu seras déjà passé à autre chose, en fait. Tu t'en rendras compte que, ah, ça y est, c'est fini, mais ça, c'est fini quand? Parce que le temps fait son œuvre et ça pour tout. Pour l'allaitement, pour ton bébé qui change de jour en jour, de semaine en semaine. D'un coup, il fait des acquisitions, il se passe un clin d'œil, bam, il est en train de marcher. Ça, c'est fou. C'est juste fou. Et je me dis, j'ai pas envie de. J'ai toute une vie pour faire une carrière, pour. Je sais pas moi, pour dormir, même s'il faut, mais je sais que mes enfants, ils vont me quitter un jour. On ne fait pas des enfants pour soi. Et quand ils auront 18, 20 ans, ben, ce ne sera pas le moment d'avoir des regrets et de me dire, oh, j'ai pas assez profité.
C'est très vrai. Vivre chaque jour pleinement et à fond. Et en même temps, ça reste vrai que ça peut être parfois très dur de profiter quand on est très éprouvé. Et que c'est aussi. Enfin, je rajoute ça juste pour que si des mamans éprouvées entendent, elles se disent pas, là, je suis pas à la hauteur. Parce que parfois, on est vraiment éprouvé et que il y a des choses qu'on ne peut pas vivre seule et qu'on a besoin d'être entouré. Et donc, voilà, je rajoute ça pour parce qu'il n'y a rien de culpabilisant dans ton propos. Et que
Non, non,
ce soit.
c'est
Voilà.
absolument
Non, non,
stabilisant,
mais
je
c'est important de
pense.
pouvoir se rappeler ça et de pouvoir aussi se rappeler que si on n'arrive pas à profiter, c'est OK et que c'est souvent, c'est difficile de profiter dans toute une structure où on est tellement isolé et sans vouloir victimiser les femmes, parce que je pense que chacune est pleinement à la force de traverser ce qu'elle a à vivre. Mais voilà, parfois c'est dur et c'est OK de se dire que c'est dur parce que c'est simplement la réalité.
Ah oui, non, bien sûr, il n'y a pas des postpartums ou des parentalités qui sont toujours faciles à vivre. Et quand bien même on en a vécu un super bien, le prochain peut être catastrophique
Oui,
et
mais ouais.
inversement, en fait, c'est
Non, mais même
tout est
sans dire ça,
différent à
voilà.
chaque fois.
Mais voilà, c'est ce que tu viens de décrire, c'est vraiment le mystère de la vie en général, et en particulier d'être parent, d'être maman. C'est à la fois, voilà, il y a les galères du quotidien, et puis parfois des choses plus dures et tout ça, mais il y a aussi ce mystère de donner la vie. Tu te rends compte, c'est fou quand même, on donne la vie à des humains.
C'est ça, mais je disais tout le temps
Franchement.
pareil à mon mari. Tu te rends compte, aujourd'hui, c'est un petit grain de riz.
C'est ça,
Dans
c'est quelques
6 mois,
cellules.
je serai bien ronde. Dans un an, on aura un bébé dans nos bras. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte de ce que notre quotidien sera. Mais ce
Ouais,
qui est sûr, c'est que déjà, il existe. C'est un tout petit grain de riz et on ne conçoit déjà plus notre vie sans lui. Alors qu'on ne connaît pas encore qui il est. Et puis finalement, hop, d'une heure à l'autre,
ah, c'est
tu as
incroyable.
le ventre vide. T'as un petit être tout nouveau, tout neuf sous tes yeux qui a une bonne odeur de lait, de liquide amniotique. Tu tombes raide amoureuse de lui et tu te dis, mais comment j'ai pu vivre tant d'années de ma vie sans lui? C'est juste fou. Et je me rappelle, au moment où, en fait, à la maternité, pour ma première, au moment où j'étais seule dans la chambre, je sentais ma fille descendre. J'étais toute seule, en fait, ils m'ont oublié, les mecs. Et je la sens descendre, je sens que la tête, elle sort. Et là, je me dis, dans ma tête, c'est là où je me dis, c'est complètement dingue, mais ce sont mes dernières secondes à vie de non-parent. Après, je serai maman toute ma vie. C'est-à-dire que ces 20 années-là où j'ai vécu pour moi, enfin, où j'avais conscience que de moi, ça va être terminé pour toute ma vie. Après, mon cœur, il vivra au moins pour deux. Et j'ai trouvé ça, mais fou. T'as encore plus envie de rencontrer ton bébé. Et en même temps, tu te dis, laissez-moi profiter peut-être une minute de plus, parce que je ne sais pas ce que ma vie va devenir après. Mais c'est l'inconnu et allons-y, quoi. C'est paradoxal. Mais en même temps, c'est.
On est tout le temps en train de tenir des paradoxes dans les mains. C'est exactement ça.
Exactement. Exactement. Mais c'est beau. C'est beau. Et ça m'a marqué, hein. Vous voyez, ça va bientôt faire. Ben, ma fille va faire 8 ans et ça me marque et je me dis ça à chaque fois que je porte un bébé.
Magnifique. En tout cas, Molly, je te souhaite un beau chemin sur ton chemin de devenir doula, accompagnante à la parente, enfin, périnatale, d'accompagner d'autres femmes, d'autres mamans dans ce chemin, de cette expérience que je crois tellement à la transmission et aux besoins qu'on a les unes de se prendre soin les unes des autres, de se soutenir les unes les autres dans ce chemin. Donc vraiment, je me réjouis de savoir que tu prends ce chemin et que tu seras là à côté des mamans et des familles.
Bah, c'est un grand privilège et un grand honneur pour moi et aussi un plaisir. J'espère que tes podcasts, parce que je trouve que c'est génial ce que tu fais, ça puisse semer des graines dans la vie des femmes, des futures mamans, des papas, des futurs papas. Je trouve que c'est magique.
Puisse-t-il en être ainsi? Merci beaucoup, Molly. Merci pour ce magnifique témoignage. Et à très bientôt, j'espère. Peut-être pour un prochain bébé, peut-être pour une autre occasion.
Allez, je laisse la vie nous donner un rendez-vous, Johanna.
Exactement. Ciao, Molly.
J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à noter et à partager le podcast pour m'aider à le faire connaître. Et si tu souhaites témoigner d'un enfantement libre, d'un parcours d'autonomie sur ton chemin de maternité, n'hésite pas à me contacter. Un lien se trouve dans les notes. À très vite !